Le 5 avril 1967. Au début de la conversation, mère tente aux disciples une guirlande de fleurs appelée adoration.
Adoration. Adoration.
Ça, c'est pour toi. Tu veux ça? Tu le veux?
Oui.
Bon, dis, quand les cellules se mettent dans cet état-là, c'est admirable. Tu peux pas t'imaginer. Ça change complètement la vie. Elles sont comme l'émerveillement, n'est-ce pas? Le premier contact. C'est possible que ce soit si beau que ça, c'est possible comme ça. Et tout le temps, à chaque moment, à propos de n'importe quoi, c'est possible que ce soit comme ça. Et quel émerveillement, n'est-ce pas? On voit la différence entre les vieilles habitudes de tout ce qu'on a fourré dans... C'est merveilleux, c'est incroyable. Encore toute la matinée. Et on sent un malaise, ça vient toujours du dehors. De ceci, de cela, à propos de ceci, à propos de cela. Ça vient comme ça. Alors, immédiatement, elle se souvient. Elle se souvient, elle dit, non. Non. Ce que tu voudras, Seigneur, c'est ça leur attitude. Une attitude de, n'est-ce pas, de don de soi si total. Beaucoup, beaucoup plus total, beaucoup plus simple, beaucoup plus charmant que dans n'importe quelle partie de l'être. Toi, ce que tu voudras être, pas être toi avec l'idée d'agrandissement, mais se fondre, se couler, se disparaître en toi, comme ça. Et alors, mais c'est toi la réalité. Et tous ces mots, c'est des diminutions. Diminution de... Pas de sensation de conscience. C'est cette merveille de conscience. Toi seul tu existes, toi seul tu es. Et alors, tous les malaises, toutes les douleurs, tout ça, ça disparaît sans laisser de trace. C'est une merveille, on ne peut pas s'imaginer. Une fois, Sri Aurobindo a écrit quelque part. Après une expérience comme ça de la présence divine dans l'être, il a écrit « If men knew how marvelous is the way, but they don't know ». Il a écrit, je ne peux pas citer parce que je cite de travers. Mais il a eu cette expérience. Si les gens savaient à quel point c'est merveilleux, ils n'hésiteraient pas une minute. Maintenant, il faut encore des différences. Seulement, je vois une chose. Il faut avoir eu ce que j'ai eu quand j'étais toute jeune. le sens de la réalisation matérielle dans sa perfection la plus extrême, la volonté de perfectionner. Il faut avoir ça pour ne pas tout jeter en l'air et bien rester comme ça, comme un idiot, n'est-ce pas, n'a rien fait. C'est cette vieille discipline qui fait que tout ce que je fais est fait automatiquement avec la volonté d'une perfection. C'est une vieille discipline. Autrement, oh, ça il a à rire à tout le monde et à tout le monde. Ayez mon expérience, vous verrez ce que ça vaut. C'est vraiment intéressant.
Oui, mère donne à lire une question qui lui a été posée par un professeur de l'école.
Alors, ce garçon, tu as fait sa question ?
Ben oui, je vois.
Qu'est-ce qui... Répète la question.
Lorsque dans la réunion des professeurs, on a lu ta communication à propos du Project Work sur l'évolution spirituelle de l'Inde, cela a été pour moi une révélation et m'a donné une grande joie. Ma première réaction était « Adieu avec ces sujets de spiritualité ancienne, car en dépit de bonnes explications, on risquait toujours de tomber dans cette erreur grossière de placer Sri Aurobindo dans l'histoire. » Ai-je raison ? On a discuté ensuite sur le plan d'avenir. Il me sembla que presque tout le monde était inquiet de faire quelque chose pour que les enfants deviennent plus conscients du pourquoi ils sont ici. À ce point, j'ai dit qu'à mon avis, parler de choses spirituelles aux enfants avait souvent un résultat contraire.
Des choses spirituelles, qu'est-ce qu'il entend par choses spirituelles ?
Et ces mots perdaient toute valeur. C'est-à-dire que, oui, si les professeurs débitent ça comme une histoire, ça va évidemment... C'est ce qu'ils font, d'ailleurs, souvent.
Non, mais c'est ça, n'est-ce pas, les choses spirituelles. On leur apprend l'histoire ou les choses spirituelles. On leur apprend la science ou les choses spirituelles. C'est ça l'idiotie. Dans l'histoire, il y a l'esprit, dans le... N'est-ce pas, la vérité partout. Et ce qu'il faut, c'est de ne pas l'enseigner d'une façon mensongère, de l'enseigner d'une façon véritable. Ils ne peuvent pas entrer ça dans l'esprit.
J'ai proposé qu'il serait peut-être mieux de se réunir pour entendre la voix de la mère, les enregistrements des classes des mercredis et vendredis. Car même si on ne comprenait pas du tout, ta voix fera son travail intérieur que nous ne sommes pas à même d'apprécier. Mais je voudrais savoir à ce sujet quelle est la meilleure façon de mettre l'enfant en rapport avec toi. Car toutes les suggestions, y inclus la mienne, me semblent arbitraires et sans valeur réelle. Mais ne serait-il pas mieux si les professeurs se concentrent uniquement sur les sujets qu'ils enseignent, car la vie spirituelle, c'est toi qui s'en occupes. Car la vie spirituelle, c'est toi qui s'en occupes. Évidemment, c'est absurde.
Je n'aurais pas ça. Il n'y a pas de vie spirituelle. C'est encore la vieille idée. C'est encore la vieille idée du sage, du yogi, du sannyasi, qui représente la vie spirituelle et puis tous les autres qui représentent la vie ordinaire. C'est pas vrai du tout. s'ils ont encore besoin d'une opposition entre deux choses, parce que le malheureux mental ne fonctionne pas quand on ne lui donne pas une opposition. S'ils ont besoin d'une opposition, qu'ils prennent l'opposition entre la vérité et le mensonge. Ça, c'est un peu mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un peu mieux. Et alors, dans toute chose, il y a le mensonge et la vérité mélangés partout. Dans la soi-disant vie spirituelle, chez les sannyasis, chez les swamis, chez ceux qui croient qu'ils représentent la vie divine sur terre, tout ça, il y a aussi le mélange du mensonge et de la vérité. Il vaudrait mieux ne pas couper. Pour les enfants, à cause même du fait qu'ils sont des enfants, le mieux serait de leur inculquer la volonté de conquérir l'avenir. La volonté de regarder toujours en avant et de vouloir avancer aussi rapidement qu'ils peuvent vers ce qui sera. Non pas traîner avec eux le fardeau, les boulets de tout un passé qui alourdit. C'est seulement quand on est déjà très haut dans la conscience et la connaissance, qu'il est bon de regarder en arrière pour trouver les points où cet avenir a commencé à s'indiquer. C'est quand on peut regarder tout l'ensemble, quand on a une vision très générale, il y a intérêt à savoir que ce qui se réalisera en avant a été déjà annoncé en arrière. De la même façon que M. Aubineau a dit que la vie divine se manifestera sur la terre parce qu'elle est déjà enfouie dans les profondeurs de la matière. C'est à ce point de vue-là que c'est intéressant de regarder en arrière ou de regarder tout en bas. Pas pour savoir ce qui s'est passé, ou pour savoir ce que les hommes ont su. C'est tout à fait inutile. Pour l'enfant, il faudrait lui dire, il y a des merveilles qui doivent être manifestées. Prépare-toi pour les recevoir. Alors, s'ils veulent quelque chose d'un peu plus concret et d'un peu plus facile à comprendre, on peut leur dire que Aubineau est venu pour annoncer ces choses. Quand tu pourras le lire, tu comprendras. Alors, ça éveille l'intérêt du désir d'apprendre. Voilà ce que je propose.
Je vois bien la difficulté à laquelle il fait allusion. N'est-ce pas? La plupart des gens, de ce qu'on trouve écrit, ou de ce que l'on, des conférences que l'on fait, ils emploient des mots boursouflés, sans aucune vérité d'expérience propre, qui n'ont aucun effet, et qui ont plutôt un effet négatif. C'est à ça qu'il fait allusion.
Mais c'est pour ça que je dis que c'est comme ça qu'il faudrait aller. Ah mais, l'Espagne n'a pas encore si longtemps que la majorité des professeurs disaient « Oh, il faut que nous fassions ça parce que ça, on fait ça partout. » Ils ont déjà fait un peu de chemin, mais il en reste beaucoup à faire. Mais surtout, ce qui est tout à fait important, c'est de supprimer ces divisions. Et tous, ils l'ont tous dans l'esprit. La division entre vivre d'une vie spirituelle ou vivre la vie ordinaire. Avoir une conscience spirituelle ou avoir une conscience ordinaire. Il n'y a qu'une conscience. Dans la majorité des gens, elle est aux trois quarts endormie et déformée. Dans beaucoup, elle est encore tout à fait déformée. Mais ce qu'il faut, c'est tout simplement, c'est pas sauter d'une conscience dans l'autre, c'est ouvrir sa conscience et la remplir des vibrations de vérité. La mettre en harmonie avec ce qui doit être. Ici, là, c'est de toute éternité. Mais ici, ce qui doit être ici. Le demain de la terre. Et si vous les alourdissez de tout un fardeau que vous devez traîner derrière, tout ce qu'il faut que vous quittiez, si vous le traînez après vous, vous ne pourrez pas avancer très vite. N'autre que de savoir les choses du passé de la Terre, ça peut être très intéressant et très utile, mais ça ne doit pas être quelque chose qui vous lie, vous attache en arrière. Et ça peut, si on s'en sert comme d'un tremplin, ça va bien. Mais au fond, c'est assez secondaire. Au point de vue individuel. Il y avait un temps où c'était d'ailleurs assez général dans la plupart des gens qui s'occupaient des choses soi-disant occultes, où il paraissait d'un intérêt palpitant de savoir ses vies antérieures, de connaître ses expériences passées. Mais dès que je suis venu ici et que j'ai compris ce que ce Aurobindo a apporté, tout ça m'a paru absolument indifférent. Ce sont des curiosités enfantines. Ça ne vous aide d'aucune manière. Mais c'est seulement ou pour se glorifier ou pour s'amuser que c'est sans importance. Il y a encore des gens qui écrivent, voulez-vous me dire qu'elles ont été mes vies antérieures? Je leur dis, c'est pas intéressant. C'est la vie que vous voulez réaliser qui est intéressante. Pas les erreurs que vous avez commises dans le passé. Ce serait intéressant de formuler ou d'élaborer une nouvelle méthode d'enseignement pour les enfants. Les prendre tout petit sur la scène. Quand on les a de tout petits, c'est facile. Il faut des gens qui... Ah, il faudra des professeurs remarquables. D'abord, ils aient une documentation suffisante de ce qui est su pour pouvoir répondre à toutes les questions. Mais et en même temps, au moins la connaissance, sinon l'expérience serait mieux. La vraie attitude intellectuelle, intuitive, et naturellement la capacité serait encore préférable, mais en tout cas la connaissance que la vraie manière de savoir, c'est le silence mental. Un silence attentif tourné vers la conscience plus vraie et la capacité de recevoir ce qui vient de là. Et alors, capable le mieux serait d'avoir cette capacité. En tout cas, il faudrait expliquer que c'est la vraie chose. Une sorte de démonstration aussi. Et que ça travaille non seulement au point de vue de ce qui doit être appris, tout le domaine de la connaissance, mais aussi tout le domaine de ce qui doit être fait. L'indication exacte de comment le faire. Et à mesure qu'on avance, alors ça se change en une perception très claire de ce qui doit être fait et de l'indication précise de quand ça doit être fait. Il faudrait tout au moins que les enfants, dès qu'ils ont la capacité de réfléchir. Ça commence à 7 ans. Mais vers 14-15 ans, c'est très clair. Je donne des petites indications à 7 ans, une complète explication à 14. De comment faire, et que c'est l'unique moyen de pouvoir être en rapport avec la vérité profonde des choses. Que tout le reste est une approximation mentale, plus ou moins maladroite, de quelque chose que l'on peut savoir directement. La conclusion, c'est que les professeurs devraient eux-mêmes avoir au moins un début sincère de discipline et d'expérience. Qu'il ne s'agit pas d'accumuler le livre et puis de les relire sans ça. On ne peut pas être professeur comme ça. Non, la terre tout entière est comme ça. Il n'y a qu'à la laisser dehors être comme ça si ça leur fait plaisir. Nous ne sommes pas des propagandistes. Nous voulons simplement montrer ce qui peut être fait. Et essayer de prouver que ça doit être fait. Quand on a les enfants tout petits, c'est merveilleux. Là, il y a si peu de choses à faire. Il suffit d'être, de jamais se tromper, de jamais se fâcher, toujours comprendre et voir clairement pourquoi il y a eu ce mouvement. Pourquoi il y a eu cette impulsion? Quelle est la constitution intérieure de l'enfant? Quelle est la chose qu'il faut fortifier, mettre en avant? Il n'y a que ça à faire. Et puis le laisser libre de s'épanouir. Leur donner seulement l'occasion de voir beaucoup de choses, de toucher beaucoup de choses, de faire autant de choses que possible. Ça, c'est très amusant. Et surtout pas essayer de leur imposer ce que l'on croit savoir. Ne jamais grandir. Toujours comprendre. Et si l'enfant est capable, expliquer. S'il n'est pas capable d'expliquer, si on est soi-même capable, remplacer la vibration fausse par une vibration vraie. Ça, c'est demander au professeur une perfection, sinon rarement. Mais ce serait très intéressant de faire un programme pour les professeurs et le vrai programme des études. Depuis tout en bas, qui est si plastique et qui reçoit les impressions si profondément que si on leur mettait des gouttes de vérité quand ils sont tout petits, ça s'épanouirait naturellement à mesure que l'être croit. C'est très joli, joli travail.